Vendredi 18 septembre 2020, il est 18h. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le journal en français de Studio Kalangou. Présentation de Fils Adam Sirfo. Les titres. Plusieurs quartiers de la commune urbaine de Birningaouré, région de Dosso, inondés suite aux fortes précipitations. Le chef de village témoigne dans ce journal. Les 30 périmètres rizicoles sur 37 dont dispose la Fédération des unions des coopératives des producteurs de riz ont été inondés, soit plus de 22 000 tonnes de riz endommagées par les eaux. L'Aficopri tire la sonnette d'alarme. Le magazine de ce jour nous édifie sur la gestion et la mobilisation des ressources au niveau des régions et des communes au Niger. Les fortes précipitations qui se sont succédées ces dernières semaines ont inondé plusieurs quartiers de la commune de Birningaouré, région de Dosso, laissant des dizaines de familles sans habitation. Certaines ont trouvé refuge dans les écoles où ils sont assistés par l'État et les organisations humaines, selon les explications du chef de village Amadou Aïdo Bedi. Il est joint au téléphone par Moussa Hassan.
Il y a eu des concessions qui ont été inondées, des maisons qui se sont écroulées, mais il n'y a pas de perte en vie humaine. Les quartiers les plus touchés, c'est le quartier Tépé, Carré, Tégui, Foufoulé.
Actuellement, les sinistrés, comment on les prend en charge?
Ils sont logés dans les écoles. Il y a une ONG, Islamic Relief, qui a amené des vivres, des nattes, des couvertures, des bâches. Et dans un premier temps, l'État aussi s'est manifesté. Et présentement, on est ici là en train de distribuer des vivres à des sinistrés de quatre quartiers.
Sur 37 périmètres rizicoles de la Fédération des unions des coopératives des producteurs de riz Ficopri, 30 ont été inondés, soit une production de plus de 22 000 tonnes. Une situation très critique selon le secrétaire général de cette fédération qui ajoute que cela impactera sur la production du riz local cette année. Mamadou Hassan, que je vous propose d'écouter.
Vous n'êtes pas sans savoir que la vallée du fleuve, c'est là où se trouvent plusieurs périmètres rizicoles. Donc ces périmètres ont été fortement affectés par ces inondations. Sur les 37 périmètres rizicoles, nous avons actuellement 30 périmètres qui ont été inondés, dont 17 sont actuellement sous les eaux. Cette situation est inédite. En 2012-2013, nous avons eu des inondations, mais cette année, c'est très, très grave. Je peux vous dire que si nous prenons 6 tonnes l'hectare, c'est à peu près 22 000 et quelques tonnes de riz qui sont perdues, sans compter les pertes en engrais, labour et autres qui se chiffrent à 1,8 milliard. Les producteurs ont perdu leur production. Si vous prenez la situation pour la campagne prochaine, en riz local va beaucoup chuter. Donc vraiment, c'est un problème. Nous lançons un appel à l'État pour qu'on puisse faire des arrangements afin que ces producteurs puissent récupérer la campagne qui s'amène.
Le moringa fait partie des aliments les plus prisés par la population nigérienne. Selon les nutritionnistes, les feuilles de cet arbuste regorgent de grandes vertus nutritionnelles. Mais depuis peu, suite aux inondations des jardins, ce produit est devenu cher et rare sur les marchés de la capitale. Les femmes qui exercent le commerce du moringa se plaignent de la hausse des prix. Écoutons quelques-unes d'entre elles au micro de Salamatu Kadri.
Il y a des moments où le sac de moringa ne dépasse pas 6 à 7 000. Mais aujourd'hui, le grand sac est à 27 500. Les tout petits sacs étaient à 400, 500, 750 ou 1000 francs. Maintenant, c'est à 2500, 3000. La tasse de Yula Yula se vend à 3000 alors qu'avant, c'était à 350, 400 francs. La tasse de Oula est à 750 alors que c'était à 300 ou 350.
Maintenant, le moringa n'a pas de bénéfice. Souvent, c'est même difficile d'en avoir. Tu peux vendre le moringa jusqu'à 2 à 3 fois sans pour autant gagner de bénéfice. On vend le petit sac du moringa de 11 000 à 12 000 francs, alors qu'avant, on achetait le grand sac à 6 000 francs.
Dans le Conseil des ministres du mercredi 16 septembre 2020, le gouvernement nigérien s'est engagé à conduire une réforme sur le secteur des engrais. Cette décision, selon le président de la plateforme paysanne, pourra améliorer la disponibilité et l'accessibilité des engrais à la hauteur des besoins de l'agriculture nigérienne. Jibo Banya est joint au téléphone par Mokhtar Hamadou.
Au niveau des organisations de producteurs, la question des engrais était devenue une vraie préoccupation. Alors, au niveau de la qualité, au niveau de la distribution, au niveau du coût, c'est vraiment des contraintes. Alors, si on fait le lien entre les engagements politiques et ce qui est en train d'être fait, il y a un écart. Et cet écart ne peut être réglé qu'à travers le secteur privé, mais un secteur privé qui va être encadré par les différents organes qui ont été créés pour mettre en œuvre ces réformes. Donc, je pense que maintenant, tirant les leçons de ce qui s'est passé, tirant les leçons de tout ce que nous avons eu en termes de renforcement de capacité, nous ne pouvons que nous réjouir, mais nous ne pouvons aussi que engager les différents acteurs qui ont été identifiés pour faire partie de ces différents organes pour qu'on ne revienne pas dire « Ah, mais on a fait la réforme, mais qu'est-ce que ça a donné comme effet ?» Alors, on est à la case de départ.
Parlons environnement. À présent, la communauté internationale a célébré mercredi 16 septembre la journée internationale de la protection de la couche d'ozone sous le thème « Ozone pour la vie, 35 ans de protection de la couche d'ozone ». La couche d'ozone, c'est un rappel, protège les êtres vivants à la surface de la Terre en absorbant le rayonnement ultraviolet du soleil. Cependant, des chercheurs ont constaté une diminution de ce gaz dans l'atmosphère qui a occasionné la formation d'un trou qui aujourd'hui semble se refermer. Et c'est ce qu'explique le secrétaire exécutif de l'association Jeunes Volontaires pour l'Environnement, Sani Ayouba, qui est joint au téléphone par Mokhtar Hamadou.
Les scientifiques confirment qu'aujourd'hui, après 35 ans, les trous au sein de la couche d'ozone est en train de se refermer jusqu'à plus de 90%. Ce qui montre qu'avec une collaboration entre les scientifiques, la société civile et les décideurs, on peut parvenir à des résultats. Donc, il faut les rappeler, le protocole de Vienne et la Convention de Montréal, c'est les deux jumelés qui ont permis d'interdire les substances nocives qui détériorent la couche d'ozone. Le Niger est déjà partie prenante de toutes les conventions et même cette année pour célébrer les 35 ans, j'ai vu quand même qu'il y a eu une formation à l'intention des professionnels du froid. Donc, je pense qu'il y a un effort de l'État visant à les convertir ou bien à les former, à les donner les outils et les compétences nécessaires pour la manipulation. Donc si les acteurs du froid sont sensibilisés et informés, ils peuvent faire en sorte qu'il n'y ait pas beaucoup de dégâts ou des actions nocives par rapport à l'environnement qui peuvent détériorer la couche d'ozone.
Le département d'Ingal de la région d'Agadez, durement frappé par le paludisme en cette période hivernale, les infrastructures sanitaires et le plateau technique de la place restent insuffisants face au pic de paludisme enregistré. C'est ce qu'a indiqué Rabidine Ataka, un acteur de la société civile d'Agadez, en visite hier au centre de santé intégré d'Ingal. Il est joint au téléphone par Tarnan Foudey Ahmed.
C'est la période des grandes pluies et voilà le paludisme qui fait surface. Chaque jour que Dieu fait, il y a eu des évacuations et c'est des zones nomades où c'est difficile d'avoir l'accès. Il faut se déplacer à moto pour les transporter vers le CSI. Et le CSI, nous constatons, il y a vraiment un suivi, mais il y a un manque de blocs. Les gens sont couchés sous les arbres avec des cathéters et des sérums. D'autres sont couchés sous les tentes. Le CSI, elle est pleine à craquer. Il n'y a même pas là où tu vas t'asseoir. Il y a une clinique privée qui est là en appui, même elle est pleine à craquer. Pour te dire que la situation, elle est vraiment critique.
En bref, l'État islamique revendique l'assassinat des 8 personnes, dont 2 Nigériens et 6 Français au Niger, le 9 août 2020 à Kouré, près de Niamey au Niger. C'est ce que rapporte un communiqué de la télévision Al-Naba, partagé par plusieurs médias nationaux et internationaux. Dans l'attaque, c'est un rappel, 7 employés de l'ONG française Actes de Niger et leur guide touristique ont été tués par des hommes armés non identifiés au parc de girafes de Kouré, dans le département de Kolo, région de Tillabéri. Parlons cinéma. Deux jeunes réalisateurs nigériens, Aladem Mega et Boubacar Djengare Mega, ont été sélectionnés pour participer au festival Clap Ivoire 2020 phase internationale qui se déroule actuellement en Ligue à Abidjan, la capitale ivoirienne. Selon le directeur du Centre national de la cinématographie du Niger, cette rencontre est ce qui rapproche le plus à une pépinière pour les jeunes cinéastes pour promouvoir leur projet. El Hadj Sani Mogori est joint au téléphone par Rehilat Soumana.
Actuellement, les jurys sont en train d'examiner les films, le public est en train de voir le film. Donc c'est un festival en tout cas dédié à la jeunesse. Initialement, c'était créé pour permettre à la jeunesse de l'espace IMOA de pouvoir faire leur premier pas en cinéma. Ça a été élargi au pays de la CDAO. Donc le Niger participe depuis la création du festival à cet événement-là. Jingarey Maïga fait partie de la compétition documentaire et le film de Aladin Maïga fait partie de la compétition fiction court-métrage. C'est vraiment un festival qui a une grande renommée et des partenaires du cinéma africain et du cinéma international sont toujours au rendez-vous. Déjà, il y a Canal Plus qui est là.
Hé hey Issa, cette histoire de Covid-19 me rend malade. J'ai peur, je me sens mal tout le temps et sans te mentir, j'ai peur de tout le monde. Je ne fais que lire les infos sur cette maladie sur les réseaux sociaux.
C'est normal d'avoir peur. Depuis le début de cette pandémie, je t'ai souvent répété de faire attention à tout ce que tu lis sur les réseaux sociaux. Ce sont des fausses informations pour la plupart.
Mais que dois-je faire? Où aller alors pour me tenir informé?
Informe-toi sur le site officiel de l'Organisation mondiale pour la santé et les plateformes d'information des autorités de santé du Niger. La connaissance des faits peut t'aider à réduire la peur.
Cette fois-ci, je tâcherai de suivre tes conseils. Je me rends compte qu'il y a tellement d'informations et de fausses rumeurs qu'il faudrait qu'on lutte contre la désinformation. En effet, à cause de la peur, je dors moins et je suis tout le temps fatiguée.
Une dernière chose. Pense à tout ce que tu as vécu de positif dans la journée. Et prends la vie du bon côté. Focalise toute ton énergie à sensibiliser les gens sur les mesures préventives à respecter. Rappelle aux gens que la maladie existe toujours et que l'assouplissement de certaines mesures prises par l'État ne doit pas rimer avec le relâchement des gestes barrières.
D'accord, merci Issa.
Ceci est un message du studio Kalangou en collaboration avec le ministère de la Santé publique du Niger.
À présent, le magazine de ce journal au Niger, le processus de décentralisation confie aux communautés régionales et locales la responsabilité de se prendre en charge à travers les taxes et impôts. Celles-ci financent leurs plans de développement. Comment se font alors la gestion et la mobilisation des ressources au niveau de la région et de la commune? Adamu Oumarou, président du laboratoire citoyen à Comptabilité Lab, spécialisé dans les questions de la décentralisation, répond aux questions d'Olivier Assogbavi.
Au Niger, nous avons deux collectivités territoriales. La commune gérée par un maire et un conseil municipal et la région gérée par un président du conseil régional. Adamu Oumarou, président du laboratoire citoyen à Comptabilité Lab, explique comment les ressources sont mobilisées et la responsabilité des élus dans la gestion transparente de ces ressources.
D'abord, ce que les citoyens doivent comprendre, aujourd'hui c'est à eux de prendre en charge d'abord leur collectivité locale. Ça veut dire que les ressources sont composées des impôts et taxes. Quand je prends par exemple les taxes de voirie, où dans certains lieux c'est 750 francs par an, dans d'autres lieux c'est 1000 francs et ainsi de suite. Ça dépend du statut de la commune. Maintenant, à part ça, il y a des taxes en réalité qui sont là, qui sont reconnues par la loi. À part ça, on a les ressources naturelles auxquelles la commune a accès.
Alors, à travers quel mécanisme les collectivités mobilisent leurs ressources?
Vous savez, dans les communes, on a d'abord ce qu'on appelle le PDC, d'abord qui détermine les actions de développement de la commune, le plan de développement communal, qui est un document établi sur la base de 5 ans, qui aujourd'hui normalement doit s'inspirer du PDR, qui est le plan de développement régional, qui est un plan aussi élaboré par le conseil régional, qui aussi doit s'inspirer de la politique nationale, qui est aujourd'hui le plan de développement économique et social. Donc quand on regarde, c'est à partir de ces documents-là et de la politique nationale que chaque entité, collectivité territoriale, cherche à vraiment élaborer une politique de développement local, tout en prenant en compte les besoins, les aspirations de sa communauté. À part le PDC, vous avez ce qu'on appelle le PIA, qui est le plan d'investissement annuel. Et ça, c'est comme le budget national en réalité. Donc, c'est ce budget qui détermine aussi dans l'année les investissements de la commune, les ressources que la commune doit mobiliser et comment les mobiliser, tout en respectant aussi les lois et les textes en vigueur en matière de décentralisation au Niger.
Quel est le rôle et la responsabilité des élus dans la mobilisation et la gestion de ces ressources?
Lorsqu'on parle de politique de développement local, la décentralisation, c'est que les communautés puissent eux-mêmes choisir quelqu'un à qui ils ont confiance ou des gens à qui ils ont confiance pour gérer leurs ressources, pour mener leur politique de développement, tout en mettant cette communauté ou cette population en contribution, que ce soit dans le suivi, que ce soit dans l'accompagnement, que ce soit dans la réussite des actions de développement.
Fin de ce journal, merci de votre attention. Tout de suite, le Forum de la presse avec Alassane Kouzi Mahamadou et nos confrères de la presse. De Chiroserine à Dolbel,
de Menosoroa à Birningaouré,
suivez les programmes du studio Kalangou sur votre radio.
Studio Kalangou, au rythme du Niger.